Chapitre 7. Refuser la paresse, accepter le repos. J'aimerais préciser d'emblée que les lignes qui suivent ne veulent en aucun cas accabler le chômeur ou celui qui souffre d'un handicap. Cela peut frapper chacun d'entre nous, mais servent à étudier les fondements bibliques liés à notre sujet. Tu travailleras 6 jours et tu te reposeras le 7e jour. Tu te reposeras même au temps du labourage et de la moisson. Exode 34, verset 21. Les facteurs de bénédiction sont ici clairement définis. Quels sont-ils? Travailler, se reposer et ne pas tout mélanger. Travailler. Celui qui cultive son champ a beaucoup de pain. Celui qui cultive des illusions a beaucoup de misère. Proverbe 28, verset 19. Quand nous étions chez vous, nous vous avons averti. Celui qui ne veut pas travailler ne doit pas manger non plus. Or, nous apprenons que certains d'entre vous vivent en paresseux, sans rien faire que de se mêler des affaires des autres. À ces gens-là, nous recommandons ceci au nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'ils travaillent régulièrement pour gagner leur subsistance. 2 Thessaloniciens 3, versets 10 à 12. Le 4e des 10 commandements commence ainsi. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Exode 20, verset 9. Comme ce fut le cas pour Dieu à la création, il suggère une étape, un but atteint par le travail accompli au cours de la semaine. Le repos qui suit n'est que meilleur. Votre champ de travail, quel qu'il soit, a besoin de rythme, de fidélité, de constance. Les champs cultivés sont délicats. Le cycle des saisons, des pluies, des vents, de l'ensoleillement leur est indispensable. Il en est de même pour les activités qui nous incombent. Travailler n'importe comment, n'importe quand, peut fonctionner un temps. Mais à long terme, le champ en souffrira et le pain se fera rare. Les médias nous apprennent que, suite à telle anomalie climatique, 30%, 80% des récoltes de tel secteur ont été perdues. Par contre, si les conditions sont favorables, le rendement peut dépasser largement les normes habituelles. La parole, comme la nature, nous indique le chemin de pleine récolte. Si une constance minimale est nécessaire, notre but n'est pas la survie, mais la vie en abondance. Travailler paisiblement, régulièrement, suggère des coutumes de vie saines. Les textes cités s'adressent à nous, les croyants. Cultiver des illusions est une tentation malheureuse, mais universelle, qui génère la misère financière et ou morale. Certaines personnes, extérieurement euphoriques, ne portent pourtant aucun fruit car leur vie est désordonnée. Elles trouvent parfois un bon emploi et manifestent des dons réels, mais leur vie familiale, sociale et professionnelle est si chaotique que tout s'écroule au fur et à mesure. Leur champ est inondé, dévasté par la tempête, puis brûlé par le soleil. Elles espèrent du pain, mais récoltent la misère. Le défi pour tout être humain est de comprendre que Dieu veut sa patiente collaboration en toutes choses. Il donne le jardin, l'homme le cultive. Il donne vie au troupeau, l'homme en prend soin. Il donne la matière première, l'homme l'exploite, la transforme, la valorise. Il donne l'intelligence, l'homme étudie, et ainsi de suite. Ce concept divin encourage et honore chacune de nos activités. Nous sommes ouvriers avec Dieu. 1 Corinthiens 3, verset 9. Le comprendre et le vivre est enthousiasmant. S'en croire exempté est une illusion. Cette dernière peut se produire quand nous attendons de Dieu ce qu'il attend de nous. Cultiver n'est pas sa responsabilité. Nous avons beau le lui demander, il ne le fera pas. Une telle attitude, quand elle ne dure que quelques jours, ne porte généralement pas à conséquence. C'est quand elle est cultivée qu'elle produit la misère. Un prophète moderne a dit « Par manque de courage et d'amour, nous prions au lieu de nous former. » Certains prient au lieu de travailler. Ils s'égarent dans des concepts bizarres et entraînent avec eux des gens crédules. D'autres ne comprennent pas l'importance de la stabilité au travail. Ils souffrent de renvois à répétition. Leurs enfants en sont perturbés. Leur couple en est ébranlé. Ils se sentent de constants apprentis, dominés et insécurisés. Cela peut sembler si simple, mais c'est tellement important. Un homme ou une femme qui sait travailler possède déjà une grande richesse. Un jour, je suis passé près du champ et de la vigne d'un homme paresseux, à la tête vide. Des ronces et des mauvaises herbes poussaient partout. Le mur de clôture était écroulé. J'y réfléchis à ce que j'avais vu et j'en ai tiré la leçon. Tu dors un peu, tu t'assoupis un petit moment, tu restes étendu en te croisant les bras. Pendant ce temps, la pauvreté arrive sur toi comme un rôdeur. La misère te surprend comme un pillard. Proverbe 24, versets 30 à 34. Chacun de nous a son champ. En prendre soin, l'arroser, le protéger, patienter, récolter est de notre ressort. Le miracle de Dieu n'est pas magique. Réaliser nos illusions. Mais magnifique. Le pain produit d'un champ cultivé. D'autres sources d'illusions professionnelles qui engendrent le malheur. Une trop haute opinion de soi, de son influence, de ses plans, de son travail. Certains attendent d'être reconnus, sollicités, servis, et sont indignés de ne pas l'être. Le problème est qu'ils n'ont pas atteint la qualité qu'ils croient offrir et semblent être les seuls à ne pas le savoir. Déléguer un projet avant de s'y impliquer soi-même. En rêve, un homme se voyait devant un comptoir tenu par un ange. Il lui semblait pouvoir tout acheter. Il demanda du pain pour toute l'humanité, la solution à tous les conflits, des soins efficaces pour chacun. L'ange le regarda avec tendresse et lui dit, « Monsieur, ici on ne vend pas les fruits, mais les graines. » Quand nous entendons ces personnes parler de leur vision, elle vous invite à y entrer avec force, conviction et argumentation, vous donnant l'impression que les trois quarts sont accomplis. Cependant, si vous savez leur poser les bonnes questions, vous découvrez que votre interlocuteur n'a pas encore levé le petit doigt pour sa réalisation. Il cherche seulement quelqu'un qui accomplira ses rêves. Les meilleurs dirigeants, ceux qui ont inspiré à leur suite des armées d'ouvriers convaincus, sont ceux qui marchent devant. Vouloir être reconnu avant de servir. Une personne voulait se présenter comme future visiteuse de prison. Elle avait demandé un signe à Dieu. Elle exposerait clairement sa foi à l'autorité de décision. Si cette dernière l'embauchait, c'est que Dieu la voulait à ce poste. J'ai suggéré à cette dame d'emprunter le chemin inverse. Se montrer au départ prudente comme un serpent et sage comme une colombe. Matthieu 10, verset 16. Exercer ensuite ses responsabilités avec sérieux et constance et rechercher l'excellence. Quand, grâce à son travail d'ex-prisonnière et prisonnier, seraient les témoins vivants d'une réinsertion réussie, les portes et les oreilles de ses responsables seraient alors ouvertes pour entendre la raison de ce succès. Notons au passage que l'attitude inverse existe aussi. Des ouvriers exemplaires qui arrivent en fin de carrière sans jamais avoir donné gloire à Dieu devant leurs collègues et patrons. Ils estiment que leur entourage aurait dû deviner les valeurs qui les animaient. Voilà encore une belle illusion. Quelqu'un a souligné que dans ce domaine, les hommes qui nous entourent devaient apprécier la mélodie avant de recevoir les paroles. Les extrêmes sont stériles. Un travail fidèle et si possible excellent, la mélodie, va produire des occasions uniques d'écoute, les paroles. Je connais un homme, expert financier, qui mange régulièrement à la table de hautes personnalités réunies. En fin de repas, le président demande le silence et lui donne la parole en ces termes. Monsieur X va nous dire ce qu'il a vécu avec Jésus ces dernières semaines. Tous écoutent ces paroles avec attention et respect. Pourquoi? Parce que la mélodie est de haute qualité. méconnaître nos collaborateurs. Si l'un d'eux est un œil et que nous espérons de lui qu'il entende, ou s'il est une oreille et que nous exigeons qu'il parle, nos désillusions seront immenses. Assumer nos responsabilités, discerner celles de nos collaborateurs et accomplir fidèlement notre tâche produira du pain en abondance. Les bonnes œuvres. Le Nouveau Testament parle 26 fois d'œuvres bonnes ou de bonnes œuvres. Il est à remarquer que ce n'est jamais dans un sens négatif. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2, verset 10. Beaucoup d'orateurs ne parlent de bonnes œuvres que dans un sens négatif. Souligner que le salut est totalement gratuit, acquis pour nous par Christ, est essentiel. Dénoncer les œuvres mortes aussi. Mais occulter, assombrir ou minimiser l'emphase biblique que Dieu accorde à une vie active, pleine de bonnes œuvres, est regrettable. Ces dernières témoignent d'une foi authentique. Si nous regardons la liste des personnages bibliques nommés plus haut, nous voyons que Dieu a appelé des travailleurs. Il est dit de Dorcas, femme que Pierre ressuscita, qu'elle était continuellement occupée à faire du bien et à aider les pauvres. On montra à l'apôtre les chemises et les manteaux qu'elle avait confectionnés. Cela démontre, si nécessaire, que les bonnes œuvres et le travail sont étroitement liés. Se dire « Aujourd'hui, je dois travailler toute la journée, mais j'espère que ce soir, il me restera un peu de temps pour accomplir une bonne action » est une hérésie. Pour Dorcas, confectionner des habits faisait partie intégrante du bien qu'elle produisait autour d'elle. Les passages qui suivent concernent en premier lieu notre profession. Il n'est pas possible d'en développer toute la richesse, mais nous pouvons les méditer. Se parer de bonnes œuvres. 1 Timothée 2, 10. Être riche en bonnes œuvres. 1 Timothée 6, 18. Être propre à toute bonne œuvre. 2 Timothée 2, 21. Être zélé pour les bonnes œuvres. Tite 2, 14. Être prêt à toute bonne œuvre. Tite 3, 1. Nous appliquer à pratiquer de bonnes œuvres. Tite 3, 8. Veiller à mieux aimer et faire des œuvres bonnes. Hébreux 10, 24. Être capable de toute bonne œuvre. Hébreux 13, 21. Que les hommes les voient et louent Dieu. Matthieu 5, 16. Qu'ils les voient et glorifient Dieu. 1 Pierre 2, 12. Si ces œuvres font partie intégrante de notre métier, il y a évidemment aussi place pour des œuvres bénévoles. Aux États-Unis, les pasteurs de toutes les églises d'une ville demandèrent au maire de leur partager ses préoccupations. Ce dernier mentionna les parcs publics transformés en poubelles. La municipalité n'avait plus les moyens de faire face. Un samedi, armés de gants et de sacs poubelles, des centaines de chrétiens réhabilitèrent les jardins publics. Cette action ne fut que le départ pour d'autres opérations plus conséquentes. L'opinion des autorités et de la population au sujet des croyants changea positivement. Les bonnes œuvres, loin d'être méprisables, changent les mentalités, ouvrent les portes, gagnent la confiance. Ce n'est en général pas notre foi qui touche les non-croyants, mais nos œuvres. Aux yeux de Dieu, nos actes comptent bien plus que ce que nous imaginons habituellement. Moi, dit le Seigneur, je vois jusqu'au fond du cœur, je perce le secret des consciences. Ainsi, je peux traiter chacun selon sa conduite et le résultat de ses actes. Jérémie 17, verset 10. Voir aussi Matthieu 16, 27. Romains 2, verset 6. 1 Corinthiens 3, verset 13. 2 Corinthiens 11, verset 15. Apocalypse 2, verset 23. Et 20, verset 13. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. 2 Corinthiens 9, verset 8. Se reposer. Dieu, après avoir achevé son œuvre, se reposa le septième jour de tout son travail. Il fit de ce septième jour un jour béni, un jour qui lui est réservé, car il s'y reposa de tout son travail de créateur. Le sommeil du travailleur est doux. Genèse 2, versets 2 et 3. Ecclésiaste 5, verset 11. La vie n'est pas un sprint sur 100 mètres, mais un marathon. La gestion de nos forces est indispensable. Un grand spécialiste en la matière, le docteur Archibald Hart, a écrit nombre de livres sur le sujet. Il affirme que dans une étude faite sur 3000 décès par crise cardiaque chez les hommes de moins de 50 ans aux États-Unis, le 100% d'entre eux avaient une glande surrénale, qui sécrète l'adrénaline, trop développée. Cette glande croît exagérément quand, au lieu de se reposer et de dormir, nous la stimulons comme substitut. En d'autres termes, nous pouvons nous doper à l'adrénaline jusqu'à ce que le cœur lâche. Il est surprenant de voir à quel point la Bible insiste sur le repos. Pourtant, le message ne semble pas avoir passé. En caricaturant à peine les choses, nous pouvons dire que certains considèrent le travail comme spirituel et la détente comme charnelle. Le résultat est catastrophique. Nous nous épuisons au travail et nous nous sentons coupables dans nos brefs instants de détente. Un pasteur disait « Je ne prends jamais de vacances car le diable, lui non plus, n'en prend pas. » Quelqu'un lui a répondu « Vous allez finir par lui ressembler. » Dans la plupart des pays que je visite, les pasteurs ne s'accordent aucun repos. Quand ce dernier est prévu sur le papier, il n'est pas respecté par les membres des communautés. Chacun s'octroie le droit de déranger son berger presque 24 heures sur 24, jusqu'à épuisement. Finalement, tout le monde en souffre. Qui aura le courage de se lever et d'arrêter ses pratiques suicidaires? De même qu'un pharmacien, un pompier ou un médecin a droit au repos par un système organisé de rotation, de même un responsable spirituel doit pouvoir s'arrêter, quelles que soient les coutumes locales. Se reposer est un ordre divin, au même titre que travailler. L'une des intentions de Dieu dans le sabbat est de procurer une rupture dans le rythme du travail, afin de se reposer et de ne pas devenir esclave de l'ouvrage. L'homme qui se sera reposé un jour sur sept aura accompli au cours de sa vie beaucoup plus que celui qui aura travaillé sept jours sur sept. Comment Dieu se repose-t-il? À la fin de chaque étape, il prend le temps de considérer tout ce qu'il a accompli. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, car en ce jour, Dieu s'était reposé de toute l'œuvre qu'il avait créée. Conformément à Genèse 1, versets 13 et 14, 18 à 19, 31 et chapitre 2, versets 1 à 3. J'avais, durant une période de ma vie, beaucoup de mal à me détendre. J'étais en vacances physiquement et géographiquement, mais non intellectuellement. Culpabilité, préoccupation, pensée pesante assombrissait continuellement mes journées. Je décidai de m'inspirer de la méthode de Dieu. L'année suivante, je notai les étapes importantes accomplies. Déménagement, décision de poids, étapes professionnelles, relations améliorées, achats conséquents, progrès dans l'apprentissage d'une langue étrangère, etc. Sur un calendrier, j'attribuai un sujet par jour de vacances. Durant celle-ci, chaque matin, je me remémorais l'étape franchie et les bienfaits qui en avaient découlé. Je la dégustais, me réjouissant et me reposant du travail accompli. Mes vacances furent bien plus positives et renouvelantes. Comme le psalmiste encourage son âme à espérer, il nous faut parfois dire à notre corps « Repose-toi » et à notre cerveau « Détends-toi. Financièrement, il est absolument légitime d'équilibrer positivement le budget détente en rapport à ce que votre travail rapporte. Économiser sur les vacances est un mauvais calcul. La qualité du repos est indispensable à la réussite de l'étape suivante. Notre cerveau a également besoin de changement et d'oxygénation tout au long de l'année. Pour ma part, avec des horaires irréguliers et de nombreux voyages, il m'était difficile de trouver un hobby adapté et des amis pour le partager. Quand les copains disponibles se font rares, la motivation pour se bouger est faible. Prendre congé pour tourner en rond, s'ennuyer ou regarder la télévision est loin d'être satisfaisant. Lire, étudier ou suivre un séminaire, dans mon cas, revenait à proposer à un garde forestier une promenade en forêt comme changement. Après avoir un peu pratiqué le frisbee et le cerf-volant, j'ai découvert le modélisme planeur. Si, dans ce sport, les rencontres sont nombreuses et très intéressantes, le planeur radiocommandé a l'avantage de pouvoir se pratiquer seul. Le vol de pente est presque à chaque fois synonyme de paysages magnifiques et de grand air. L'évolution majestueuse et silencieuse de l'appareil dans les trois dimensions est comparable au vol de l'aigle. La communion avec le Créateur et sa création est bien réelle. Sans ces journées d'oxygénation et de détente, la collection des livres Comment n'aurait pas vu le jour ou plus difficilement. Il m'est arrivé de travailler toute la semaine, d'assumer réunion sur réunion le week-end et de me remettre à l'ordinateur le lundi matin. Résultat, un cerveau vide, une attente sèche et pénible. Un homme a dit, je n'ai pas besoin de sabbat, car ce dernier a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. Quelqu'un lui a répondu, justement, le sabbat n'a pas été fait pour les chiens. Séparer les jours de travail et les jours de repos. Je ne parle pas ici des obligations familiales incontournables, mais de l'habitude malsaine de mélanger volontairement travail et repos. Un courrier électronique, une lettre, un entretien professionnel au milieu d'un jour de congé ne fait pas gagner de temps, mais gâche une bonne partie du bénéfice de cette pause légitime. Notre esprit et notre corps reçoivent un message de stress qui, à la longue, altère et pollue travail et repos. Le téléphone portable, sympathique à ses débuts, peut se muer en dictateur. Il détruit l'intimité, l'attention, le rêve, l'enchantement, le rire. Ne le laissez pas faire. Celui qui examine attentivement la loi parfaite qui nous procure la liberté et ne se contente pas de l'écouter pour l'oublier ensuite, mais il la met en pratique. Eh bien, celui-là sera béni dans tout ce qu'il fait. Jacques 1, verset 25. Pour être béni dans votre travail et vous y épanouir, travaillez diligemment par étapes, accordez-vous du repos de qualité et ne mélangez pas tout.